L'éducation sentimentale, deuxième partie, suite du chapitre 6. Le lendemain, il retourna chez elle, on le reçut. Et, afin de poursuivre ses avantages, immédiatement, sans préambule, Frédéric commença par se justifier de la rencontre au Champ de Mars. Le hasard seul l'avait fait se trouver avec cette femme. En admettant qu'elle fût jolie, ce qui n'était pas vrai, comment pourrait-elle arrêter sa pensée, même une minute, puisqu'il en aimait une autre ? Vous le savez bien, je vous l'ai dit. Madame Arnoux baissa la tête. Je suis fâchée que vous me l'ayez dit. Pourquoi ? Les convenances les plus simples exigent maintenant que je ne vous revoie plus. Il protesta de l'innocence de son amour. Le passé devait lui répondre de l'avenir. Il s'était promis à lui-même de ne pas troubler son existence, de ne pas l'étourdir de ses plaintes. Mais hier, mon cœur débordait. Nous ne devons plus songer à ce moment-là, mon ami. Cependant, où serait le mal quand deux pauvres êtres confondraient leur tristesse? Car vous n'êtes pas heureuse non plus. Oh, je vous connais, vous n'avez personne qui réponde à vos besoins d'affection, de dévouement. Je ferai tout ce que vous voudrez, je ne vous offenserai pas, je vous le jure. » Et il se laissa tomber sur les genoux, malgré lui, s'affaissant sous un poids intérieur trop lourd. « Levez-vous, » dit-elle, « je le veux. » Et elle lui déclara impérieusement que s'il n'obéissait pas, il ne la reverrait jamais. « Ah, je vous en défie bien !» reprit Frédéric. « Qu'est-ce que j'ai à faire dans le monde? Les autres s'évertuent pour la richesse, la célébrité, le pouvoir. Moi, je n'ai pas d'état. Vous êtes mon occupation exclusive. Toute ma fortune, le but, le centre de mon existence, de mes pensées. Je ne peux pas plus vivre sans vous que sans l'air du ciel. Est-ce que vous ne sentez pas l'aspiration de mon âme monter vers la vôtre ? Et qu'elles doivent se confondre, et que j'en meure. » Madame Arnoux se mit à trembler de tous ses membres. « Oh, allez-vous-en, je vous en prie. » L'expression bouleversée de sa figure l'arrêta. Puis il fit un pas, mais elle se reculait en joignant les deux mains. « Laissez-moi, au nom du ciel, de grâce !» Et Frédéric l'aimait tellement qu'il sortit. Bientôt, il fut pris de colère contre lui-même, se déclara un imbécile, et 24 heures après, il revint. Madame n'y était pas. Il resta sur le palier, étourdi de fureur et d'indignation. Arnoux parut, et lui apprit que sa femme, le matin même, était partie s'installer dans une petite maison de campagne qu'il louait à Auteuil, ne possédant plus celle de Saint-Cloud. « C'est encore une de ses lubies !» Enfin, puisque ça l'arrange, et moi aussi du reste. Tant mieux. Dînons-nous ensemble ce soir ? Frédéric allégua une affaire urgente, puis courut à Auteuil. Madame Arnoux laissa échapper un cri de joie. Alors, toute sa rancune s'évanouit. Il ne parla point de son amour. Pour lui inspirer plus de confiance, il exagéra même sa réserve. Et lorsqu'il demanda s'il pouvait revenir, elle répondit « Mais sans doute !» en offrant sa main, qu'elle retira presque aussitôt. Frédéric, dès lors, multiplia ses visites. Il promettait au cocher de gros pourboires. Mais souvent, la lenteur du cheval l'impatientant, il descendait. Puis, hors d'haleine, grimpait dans un omnibus. Et comme il examinait dédaigneusement les figures des gens assis devant lui et qui n'allaient pas chez elle. Il reconnaissait de loin sa maison, un chèvrefeuille énorme couvrant d'un seul côté les planches du toit. C'était une manière de chalet suisse peint en rouge avec un balcon extérieur. Il y avait dans le jardin trois vieux marronniers et au milieu, sur un tertre, un parasol en chaume que soutenait un tronc d'arbre. Sous l'ardoise des murs, une grosse vigne, mal attachée, pendait de place en place, comme un câble pourri. La sonnette de la grille, un peu rude à tirer, prolongeait son carillon, et on était toujours longtemps avant de venir. Chaque fois, il éprouvait une angoisse, une peur indéterminée. Puis il entendait claquer sur le sable les pantoufles de la bonne, ou bien Madame Arnoux elle-même se présentait. Il arriva un jour, derrière son dos, comme elle était accroupie devant le gazon, à chercher de la violette. L'humeur de sa fille l'avait forcée de la mettre au couvent. Son gamin passait l'après-midi dans une école. Arnoux faisait de longs déjeuners au palais royal avec Reginbard et l'ami Compin. Aucun fâcheux ne pouvait les surprendre. Il était bien entendu qu'ils ne devaient pas s'appartenir. Cette convention, qui les garantissait du péril, facilitait leurs épanchements. Elle lui dit son existence d'autrefois, à Chartres, chez sa mère, sa dévotion vers 12 ans, puis sa fureur de musique lorsqu'elle chantait jusqu'à la nuit dans sa petite chambre d'où l'on découvrait les remparts. Il lui conta ses mélancolies au collège et comment dans son ciel poétique resplendissait un visage de femme, si bien qu'en la voyant pour la première fois, il l'avait reconnue. Ces discours n'embrassaient, d'habitude, que les années de leur fréquentation. Il lui rappelait d'insignifiants détails, la couleur de sa robe à telle époque, quelle personne un jour était survenue, ce qu'elle avait dit une autre fois. Et elle répondait, tout émerveillée, « Oui, je me rappelle. » Leurs goûts, leurs jugements étaient les mêmes. Souvent, celui des deux qui écoutait l'autre s'écriait « Moi aussi !» et l'autre à son tour reprenait « Moi aussi !» Puis c'était d'interminables plaintes sur la Providence. « Pourquoi le ciel ne l'a-t-il pas voulu, si nous nous étions rencontrés ?»« Ah, si j'avais été plus jeune !» soupirait-elle. « Non, moi un peu plus vieux !» Et il s'imaginait une vie exclusivement amoureuse, assez féconde pour remplir les plus vastes solitudes, excédant toute joie, défiant toutes les misères, où les heures auraient disparu dans un continuel épanchement d'eux-mêmes, et qui auraient fait quelque chose de resplendissant et d'élevé, comme la palpitation des étoiles. Presque toujours, il se tenait en plein air au haut de l'escalier. Des cimes d'arbres jaunis par l'automne se mamelonnaient devant eux, inégalement jusqu'au bord du ciel pâle. Ou bien ils allaient au bout de l'avenue, dans un pavillon ayant pour tout meuble un canapé de toile grise. Des points noirs tachaient la glace, les murailles exhalaient une odeur de moisi. Et ils restaient là, causant d'eux-mêmes, des autres, de n'importe quoi, avec ravissement. Quelquefois, les rayons du soleil, traversant la jalousie, tendaient depuis le plafond jusque sur les dalles comme les cordes d'une lyre. Des brins de poussière tourbillonnaient dans ses barres lumineuses. Elle s'amusait à les fendre avec sa main. Frédéric la saisissait doucement et il contemplait l'entrelacs de ses veines, les grains de sa peau, la forme de ses doigts. Chacun de ses doigts était pour lui plus qu'une chose, presque une personne. Elle lui donna ses gants, la semaine d'après son mouchoir. Elle l'appelait Frédéric, il l'appelait Marie, adorant ce nom-là, fait exprès, disait-il, pour être soupiré dans l'extase, et qui semblait contenir des nuages d'encens, des jonchées de roses. Ils arrivèrent à fixer d'avance le jour de ses visites. Et, sortant comme par hasard, elle allait au-devant de lui sur la route. Elle ne faisait rien pour exciter son amour, perdue dans cette insouciance qui caractérise les grands bonheurs. Pendant toute la saison, elle porta une robe de chambre en soie brune, bordée de velours pareil, vêtements larges, convenant à la mollesse de ses attitudes et de sa physionomie sérieuse. D'ailleurs, elle touchait au mois d'août des femmes, époque tout à la fois de réflexion et de tendresse, où la maturité qui commence colore le regard d'une flamme plus profonde, quand la force du cœur se mêle à l'expérience de la vie, et que, sur la fin de ses épanouissements, l'être complet déborde de richesse dans l'harmonie de sa beauté. Jamais elle n'avait eu plus de douceur, d'indulgence. Sûre de ne pas faillir, elle s'abandonnait à un sentiment qui lui semblait un droit conquis par ses chagrins. Cela était si bon, du reste, et si nouveau. Quel abîme entre la grossièreté d'Arnoux et les adorations de Frédéric. Il tremblait de perdre, par un mot, tout ce qu'il croyait avoir gagné. Se disant qu'on peut ressaisir une occasion et qu'on ne rattrape jamais une sottise, il voulait qu'elle se donnât et non la prendre. L'assurance de son amour le délectait comme un avant-goût de la possession. Et puis, le charme de sa personne lui troublait le cœur plus que les sens. C'était une béatitude indéfinie, un tel enivrement qu'il en oubliait jusqu'à la possibilité d'un bonheur absolu. Loin d'elle, des convoitises furieuses le dévoraient. Bientôt, il y eut dans leur dialogue de grands intervalles de silence. Quelquefois, une sorte de pudeur sexuelle les faisait rougir l'un devant l'autre. Toutes les précautions pour cacher leur amour le dévoilaient. Plus ils devenaient forts, plus leur manière était contenue. Par l'exercice d'un tel mensonge, leur sensibilité s'exaspéra. Ils jouissaient délicieusement de la senteur des feuilles humides. Ils souffraient du vent d'est. Ils avaient des irritations sans cause, des pressentiments funèbres. Un bruit de pas, le craquement d'une boiserie, leur causait des épouvantes comme s'ils avaient été coupables. Ils se sentaient poussés vers un abîme. Une atmosphère orageuse les enveloppait, et quand les doléances échappaient à Frédéric, elle s'accusait elle-même. « Oh, je fais mal, j'ai l'air d'une coquette, ne venez donc plus !» Alors il répétait les mêmes sentiments qu'elle écoutait chaque fois avec plaisir. Son retour à Paris et les embarras du jour de l'an suspendirent un peu leurs entrevues. Quand il revint, il avait, dans les allures, quelque chose de plus hardi. Elle sortait à chaque minute pour donner des ordres et recevait, malgré ses prières, tous les bourgeois qui venaient la voir. On se livrait alors à des conversations sur Léotade, M. Guizot, le pape, l'insurrection de Palerme et le banquet du 12e arrondissement, lequel inspirait des inquiétudes. Frédéric se soulageait en déblatérant contre le pouvoir, car il souhaitait, comme des lauriers, un bouleversement universel, tant il était maintenant aigri. Madame Arnoux, de son côté, devenait sombre. Son mari, prodiguant les extravagances, entretenait une ouvrière de la manufacture, celle qu'on appelait la Bordelaise. Madame Arnoux l'apprit elle-même à Frédéric. Il voulait tirer de là un argument, puisqu'on la trahissait. « Oh, je ne m'en trouble guère, » dit-elle. Cette déclaration lui parut affermir complètement leur intimité. Arnoux s'en méfiait-il ? Non, pas maintenant. Elle lui conta qu'un soir, il les avait laissés en tête-à-tête, puis était revenu, avait écouté derrière la porte, et, comme tous deux parlaient de choses indifférentes, ils vivaient depuis ce temps-là dans une entière sécurité. « Avec raison, n'est-ce pas ?» dit amèrement Frédéric. « Oui, sans doute. Elle aurait fait mieux de ne pas risquer un pareil mot. » Un jour, elle ne se trouva point chez elle, à l'heure où il avait coutume d'y aller. Ce fut pour lui comme une trahison. Il se fâcha ensuite de voir les fleurs qu'il apportait toujours plantées dans un verre d'eau. « Où voulez-vous donc qu'elles soient ?»« Oh, pas là !»« Du reste, elles y sont moins froidement que sur votre cœur. » Quelque temps après, il lui reprocha d'avoir été la veille aux Italiens sans le prévenir. D'autres l'avaient vu, admiré, aimé peut-être. Frédéric s'attachait à ses soupçons uniquement pour la quereller, la tourmenter, car il commençait à la haïr, et c'était bien le moins qu'elle eût une part de ses souffrances. Une après-midi, vers le milieu de février, il la surprit fort émue. Eugène se plaignait de mal à la gorge. Le docteur avait dit pourtant que ce n'était rien, un gros rhume, la grippe. Frédéric fut étonné par l'air ivre de l'enfant. Il rassura sa mère néanmoins, cita en exemple plusieurs bambins de son âge qui venaient d'avoir des affections semblables et s'étaient vite guéris. « Vraiment ? Mais oui, bien sûr. Oh, comme vous êtes bon !» Et elle lui prit la main. Il l'étreignit dans la sienne. « Oh, laissez-la » « Qu'est-ce que cela fait, puisque c'est au consolateur que vous l'offrez. Vous me croyez bien pour ces choses et vous doutez de moi, quand je vous parle de mon amour. » « Je n'en doute pas, mon pauvre ami. Pourquoi cette défiance, comme si j'étais un misérable capable d'abuser ? Oh non ! Si j'avais seulement une preuve. Quelle preuve ? Celle qu'on donnerait au premier venu, celle que vous m'avez accordée à moi-même. » Et il lui rappela qu'une fois, ils étaient sortis ensemble, par un crépuscule d'hiver, un temps de brouillard. Tout cela était bien loin maintenant. Qui donc l'empêchait de se montrer à son bras, devant tout le monde, sans crainte de sa part, sans arrière-pensée de la sienne, n'ayant personne autour d'eux pour les importuner ? « Soit, » dit-elle, avec une bravoure de décision qui stupéfia d'abord Frédéric. Mais il reprit vivement, « Voulez-vous que je vous attende au coin de la rue Tronchet et de la rue de la Ferme ?»« Mon Dieu, mon ami !» balbutiait Madame Arnoux. Sans lui donner le temps de réfléchir, il ajouta, « Mardi prochain, je suppose ?»« Mardi ?»« Oui, entre 2 et 3 heures. »« J'y serai. » Et elle détourna son visage par un mouvement de honte. Frédéric lui posa ses lèvres sur la nuque. « Oh, ce n'est pas bien, » dit-elle, « vous me feriez repentir. » Il s'écarta, redoutant la mobilité ordinaire des femmes. Puis, sur le seuil, murmura, doucement, comme une chose bien convenue, « À mardi !» Elle baissa ses beaux yeux d'une façon discrète et résignée. Frédéric avait un plan. Il espérait que, grâce à la pluie ou au soleil, il pourrait la faire s'arrêter sous une porte, et qu'une fois sous la porte, elle entrerait dans la maison. Le difficile était d'en découvrir une convenable. Il se mit donc en recherche, et vers le milieu de la rue Tronchet, il lut de loin, sur une enseigne, « Appartement meublé ». Le garçon, comprenant son intention, lui montra tout de suite à l'entresol une chambre et un cabinet avec 2 sorties. Frédéric la retint pour 1 mois et paya d'avance. Puis il alla dans 3 magasins acheter la parfumerie la plus rare. Il se procura un morceau de fausse guipure pour remplacer l'affreux couvre-pied de coton rouge. Il choisit une paire de pantoufles en satin bleu. La crainte seule de paraître grossier le modéra dans ses emplettes. Il revint avec elle, et plus dévotement que ceux qui font des reposoirs, il changea les meubles de place, drapa lui-même les rideaux, mit des bruyères sur la cheminée, des violettes sur la commode. Il aurait voulu paver la chambre tout en or. « C'est demain !» se disait-il. « Oui, demain, je ne rêve pas !» Et il sentait battre son cœur à grands coups sous le délire de son espérance. Puis, quand tout fut prêt, il emporta la clé dans sa poche, comme si le bonheur qui dormait là avait pu s'en envoler. Une lettre de sa mère l'attendait chez lui. « Pourquoi une si longue absence ? Ta conduite commence à paraître ridicule. Je comprends que dans une certaine mesure, tu aies d'abord hésité devant cette union. Cependant, réfléchis. » Et elle précisait les choses. 45 000 livres de rente. Du reste, on en causait, et M. Roque attendait une réponse définitive. Quant à la jeune personne, sa position véritablement était embarrassante. Elle t'aime beaucoup. » Frédéric rejeta la lettre sans la finir et en ouvrit une autre, un billet de Deslauriers. « Mon vieux, la poire est mûre. Selon ta promesse, nous comptons sur toi. On se réunit demain au petit jour, place du Panthéon. Entre au café Soufflot. Il faut que je te parle avant la manifestation. » Oh, je les connais, leurs manifestations. Mille grâces, j'ai un rendez-vous plus agréable. Et le lendemain, dès 11 heures, Frédéric était sorti. Il voulait donner un dernier coup d'œil aux préparatifs. Puis, qui sait, elle pouvait, par un hasard quelconque, être en avance. En débouchant de la rue Tronchet, il entendit derrière la Madeleine une grande clameur. Il s'avança et il aperçut au fond de la place, à gauche, des gens en blouse et des bourgeois. En effet, un manifeste publié dans les journaux avait convoqué à cet endroit tous les souscripteurs du banquet réformiste. Le ministère, presque immédiatement, avait affiché une proclamation l'interdisant. La veille au soir, l'opposition parlementaire y avait renoncé. Mais les patriotes, qui ignoraient cette résolution des chefs, étaient venus au rendez-vous, suivis par un grand nombre de curieux. Une députation des écoles s'était portée tout à l'heure chez Odile Barrault. Elle était maintenant aux affaires étrangères, et on ne savait pas si le banquet aurait lieu, si le gouvernement exécuterait sa menace, si les gardes nationaux se présenteraient. On en voulait aux députés, comme au pouvoir. La foule augmentait de plus en plus, quand tout à coup vibra dans les airs le refrain de la Marseillaise. C'était la colonne des étudiants qui arrivait. Ils marchaient au pas, sur deux files, en bon ordre, l'aspect irrité, les mains nues, et tous criant par intervalle « Vive la réforme ! À bas Guizot !» Les amis de Frédéric étaient là, bien sûr. Ils allaient l'apercevoir et l'entraîner. Il se réfugia vivement dans la rue de l'Arcade. Quand les étudiants eurent fait deux fois le tour de la Madeleine, ils descendirent vers la place de la Concorde. Elle était remplie de monde. Et la foule, tassée, semblait de loin un champ d'épis noirs qui oscillait. Au même moment, des soldats de la ligne se rangèrent en bataille, à gauche de l'église. Les groupes stationnaient cependant. Pour en finir, des agents de police, en bourgeois, saisissaient les plus mutins et les emmenaient au poste, brutalement. Frédéric, malgré son indignation, resta muet. On aurait pu le prendre avec les autres, et il aurait manqué Madame Arnoux. Peu de temps après, parurent les casques des municipaux. Ils frappaient autour d'eux à coups de plat de sabre. Un cheval s'abattit, on courut lui porter secours, et dès que le cavalier fut en selle, tous s'enfuirent. Alors il y eut un grand silence. La pluie fine qui avait mouillé l'asphalte ne tombait plus. Des nuages s'en allaient, balayés mollement par le vent d'ouest. Frédéric se mit à parcourir la rue Tronchet, en regardant devant lui et derrière lui. 2 heures enfin sonnèrent. « Ah, c'est maintenant !» se dit-il. « Elle sort de sa maison. Elle approche. » Et une minute après, elle aurait eu le temps de venir. Jusqu'à 3 heures, il tâcha de se calmer. « Non, elle n'est pas en retard, un peu de patience. » Et par désœuvrement, il examinait les rares boutiques. Un libraire, un cellier, un magasin de deuil. Bientôt, il connut tous les noms des ouvrages, tous les harnais, toutes les étoffes. Les marchands, à force de le voir passer et repasser continuellement, furent étonnés d'abord, puis effrayés, et ils fermèrent leur devanture. Sans doute elle avait un empêchement, et elle en souffrait aussi. Mais quelle joie tout à l'heure, car elle allait venir, cela était certain. Elle me l'a bien promis. Cependant, une angoisse intolérable le gagnait. Par un mouvement absurde, il entra dans l'hôtel, comme si elle avait pu s'y trouver. À l'instant même, Elle arrivait peut-être dans la rue. Il s'y jeta. Personne. Et il se remit à battre le trottoir. Il considérait les fentes des pavés, la gueule des gouttières, les candélabres, les numéros au-dessus des portes. Les objets les plus minimes devenaient pour lui des compagnons, ou plutôt des spectateurs ironiques. Et les façades régulières des maisons lui semblaient impitoyables. Il souffrait du froid aux pieds. Il se sentait dissoudre d'accablement. La répercussion de ses pas lui secouait la cervelle. Quand il vit 4 heures à sa montre, il éprouva comme un vertige, une épouvante. Il tâcha de se répéter des vers, de calculer n'importe quoi, d'inventer une histoire. Impossible. L'image de Madame Arnoux l'obsédait. Il avait envie de courir à sa rencontre. Mais quelle route prendre pour ne pas se croiser? Il aborda un commissionnaire, lui mit dans la main 5 francs et le chargea d'aller rue Paradis chez Jacques Arnoux pour s'enquérir près du portier si Madame était chez elle. Puis il se planta au coin de la rue de la Ferme et de la rue Tronchet, de manière à voir simultanément dans toutes les deux. Au fond de la perspective, sur le boulevard, des masses confuses glissaient. Il distinguait parfois les grettes d'un dragon, un chapeau de femme, et il tendait ses prunelles pour la reconnaître. Un enfant déguenillé qui montrait une marmotte dans une boîte lui demanda l'aumône en souriant. L'homme à la veste de velours reparut. Le portier ne l'avait pas vu sortir. Qui la retenait? Si elle était malade, on l'aurait dit. Était-ce une visite? Rien de plus facile que de ne pas recevoir. Il se frappa le front. « Ah, mais je suis bête, c'est l'émeute !» Cette explication naturelle le soulagea. Puis, tout à coup, « Mais son quartier est tranquille !» Et un doute abominable l'assaillit. Si elle allait ne pas venir, si sa promesse n'était qu'une parole pour m'évincer, non, non. Ce qui l'empêchait sans doute, c'était un hasard extraordinaire, un de ces événements qui déjouent toute prévoyance. Dans ce cas-là, elle aurait écrit. Et il envoya le garçon d'hôtel à son domicile, rue Rainfort, pour savoir s'il n'y avait point de lettre. On n'avait apporté aucune lettre. Cette absence de nouvelles le rassura. Du nombre des pièces de monnaie prises au hasard dans sa main, de la physionomie des passants, de la couleur des chevaux, il tirait des présages. Et quand l'augure était contraire, il s'efforçait de ne pas y croire. Dans ses accès de fureur contre Madame Arnoux, il l'injuriait à demi-voix. Puis c'était des faiblesses à s'évanouir, et tout à coup des rebondissements d'espérance. Elle allait paraître, elle était là, derrière son dos. Il se retournait, rien. Une fois, il aperçut, à 30 pas environ, une femme de même taille, avec la même robe. Il la rejoignit, ce n'était pas elle. 5 heures arrivèrent, 5h30, 6 heures. Le gaz s'allumait. Madame Arnoux n'était pas venue. Elle avait rêvé, la nuit précédente, qu'elle était sur le trottoir de la rue Tronchet depuis longtemps. Elle y attendait quelque chose d'indéterminé, de considérable néanmoins, et sans savoir pourquoi, elle avait peur d'être aperçue. Mais un maudit petit chien, acharné contre elle, mordillait le bas de sa robe. Il revenait obstinément et aboyait toujours plus fort. Madame Arnoux se réveilla. L'aboiement du chien continuait. Elle tendit l'oreille. Cela partait de la chambre de son fils. Elle s'y précipita pieds nus. C'était l'enfant lui-même qui toussait. Il avait les mains brûlantes, la face rouge et la voix singulièrement rauque. L'embarras de sa respiration augmentait de minute en minute. Elle resta jusqu'au jour, penchée sur sa couverture, à l'observer. À 8 heures, le tambour de la garde nationale vint prévenir M. Arnoux que ses camarades l'attendaient. Il s'habilla vivement et s'en alla, en promettant de passer tout de suite chez leur médecin, M. Collot. À 10 heures, M. Collot n'étant pas venu, Madame Arnoux expédia sa femme de chambre. Le docteur était en voyage à la campagne, et le jeune homme qui le remplaçait faisait des courses. Eugène tenait sa tête de côté sur le traversin, en fronçant toujours ses sourcils, en dilatant ses narines. Sa pauvre petite figure devenait plus blême que ses draps, et il s'échappait de son larynx un sifflement produit par chaque inspiration, de plus en plus courte, sèche et comme métallique. Sa toux ressemblait au bruit de ces mécaniques barbares qui font japper les chiens de carton. Madame Arnoux fut saisie d'épouvante. Elle se jeta sur les sonnettes, en appelant au secours, en criant « Un médecin ! Un médecin !» 10 minutes après, arriva un vieux monsieur en cravate blanche et à favoris gris, bien taillé. Il fit beaucoup de questions sur les habitudes, l'âge et le tempérament du jeune malade, puis examina sa gorge, s'appliqua la tête dans son dos et écrivit une ordonnance. L'air tranquille de ce bonhomme était odieux. Il sentait l'embaumement. Elle aurait voulu le battre. Il dit qu'il reviendrait dans la soirée. Bientôt, les horribles quintes recommencèrent. Quelquefois, l'enfant se dressait tout à coup. Des mouvements convulsifs lui secouaient les muscles de la poitrine, et dans ses aspirations, son ventre se creusait comme s'il eût suffoqué d'avoir couru. Puis il retombait la tête en arrière et la bouche grande ouverte. Avec des précautions infinies, Madame Arnoux tâchait de lui faire avaler le contenu des fioles, du sirop d'ipecacuanha, une potion qu'hermétisée. Mais il repoussait la cuillère en gémissant d'une voix faible. On aurait dit qu'il soufflait ses paroles. De temps à autre, elle relisait l'ordonnance. Les observations du formulaire l'effrayaient. Peut-être que le pharmacien s'était trompé. Son impuissance la désespérait. L'élève de M. Collot arriva. C'était un jeune homme d'allure modeste, neuf dans le métier, et qui ne cacha point son impression. Il resta d'abord indécis, par peur de se compromettre, et enfin prescrivit l'application de morceaux de glace. On fut longtemps à trouver de la glace. La vessie qui contenait les morceaux creva. Il fallut changer la chemise. Tout ce dérangement provoqua un nouvel accès plus terrible. L'enfant se mit à arracher les linges de son cou, comme s'il avait voulu retirer l'obstacle qui l'étouffait. Et il égratignait le mur, saisissait les rideaux de sa couchette, cherchant un point d'appui pour respirer. Son visage était bleuâtre maintenant, et tout son corps, trempé d'une sueur froide, paraissait maigrir. Ses yeux hagards s'attachaient sur sa mère avec terreur. Il lui jetait les bras autour du cou, s'y suspendait d'une façon désespérée, et en repoussant ses sanglots, elle balbutiait des paroles tendres. « Oui, mon amour, mon ange, mon trésor !» Puis des moments de calme survenaient. Elle alla chercher des joujoux, un polichinelle, une collection d'images, et les étala sur son lit pour le distraire. Elle essaya même de chanter. Elle commença une chanson qu'elle lui disait autrefois, quand elle le berçait en l'emmaillotant sur cette même petite chaise de tapisserie. Mais il frissonna dans la longueur entière de son corps, comme une onde sous un coup de vent. Les globes de ses yeux saillissaient. Elle crut qu'il allait mourir et se détourna pour ne pas le voir. Un instant après, elle eut la force de le regarder. Il vivait encore. Les heures se succédèrent, lourdes, mornes, interminables, désespérantes, et elle n'en comptait plus les minutes qu'à la progression de cette agonie. Les secousses de sa poitrine le jetaient en avant comme pour le briser. À la fin, il vomit quelque chose d'étrange qui ressemblait à un tube de parchemin. Qu'était-ce ? Elle s'imagina qu'il avait rendu un bout de ses entrailles. Mais il respirait largement, régulièrement. Cette apparence de bien-être l'effraya plus que tout le reste. Elle se tenait comme pétrifiée, les bras pendants, les yeux fixes, quand M. Collot survint. L'enfant, selon lui, était sauvé. Elle ne comprit pas d'abord et se fit répéter la phrase. N'était-ce pas une de ces consolations propres aux médecins? Le docteur s'en alla d'un air tranquille. Alors, ce fut pour elle comme si les cordes qui serraient son cœur se fussent dénouées. Sauvée? Est-ce possible? Tout à coup, l'idée de Frédéric lui apparut d'une façon nette et inexorable. C'était un avertissement de la Providence. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, n'avait pas voulu la punir tout à fait. Quelle expiation, plus tard, si elle persévérait dans cet amour! Sans doute, on insulterait son fils à cause d'elle. Et Madame Arnoux l'aperçut, jeune homme, blessé dans une rencontre, rapporté sur un brancard, mourant. D'un bond, elle se précipita sur la petite chaise, et de toutes ses forces, lançant son âme dans les hauteurs, elle offrit à Dieu, comme un holocauste, le sacrifice de sa première passion, de sa seule faiblesse. Frédéric était revenu chez lui. Il restait dans son fauteuil, sans même avoir la force de la maudire. Une espèce de sommeil le gagna. Et à travers son cauchemar, il entendait la pluie tomber, en croyant toujours qu'il était là-bas, sur le trottoir. Le lendemain, par une dernière lâcheté, il envoya encore un commissionnaire chez Madame Arnoux. Soit que le Savoyard ne fît pas la commission, ou qu'elle eût trop de choses à dire pour s'expliquer d'un mot, la même réponse fut rapportée. L'insolence était trop forte. Une colère d'orgueil le saisit. Il se jura de n'avoir plus même un désir. Et, comme un feuillage emporté par un ouragan, son amour disparut. Il en ressentit un soulagement, une joie stoïque, puis un besoin d'action violente, et il s'en alla au hasard par les rues. Des hommes des faubourgs passaient, armés de fusils, de vieux sabres, quelques-uns portant des bonnets rouges, et tous chantant la Marseillaise ou les Girondins. Çà et là, un garde national se hâtait pour rejoindre sa mairie. Des tambours au loin résonnaient. On se battait à la porte Saint-Martin. Il y avait dans l'air quelque chose de gaillard et de belliqueux. Frédéric marchait toujours. L'agitation de la grande ville le rendait gai. À la hauteur de Frascati, il aperçut les fenêtres de la maréchale. Une idée folle lui vint, une réaction de jeunesse. Il traversa le boulevard. On fermait la porte cochère, et Delphine, la femme de chambre, en train d'écrire dessus avec un charbon, « arme donnée », lui dit vivement « Ah, madame est dans un bel état. Elle a renvoyé ce matin son groom qui l'insultait. Elle croit qu'on va piller partout. Elle crève de peur. D'autant plus que monsieur est parti. » « Quel monsieur ?»« Le prince !» Frédéric entra dans le boudoir. La maréchale parut, en jupon, les cheveux sur le dos, bouleversée. « Ah, merci, tu viens me sauver. C'est la seconde fois. Tu n'en demandes jamais le prix, toi. »« Mille pardons, » dit Frédéric, en lui saisissant la taille dans les deux mains. « Comment ? Que fais-tu ?» balbutia la maréchale, à la fois surprise et égayée par ses manières. Il répondit « Je suis la mode, je me réforme. » Elle se laissa renverser sur le divan et continuait à rire sous ses baisers. Ils passèrent l'après-midi à regarder, de leur fenêtre, le peuple dans la rue. Puis il l'emmena dîner aux trois frères provençaux. Le repas fut long, délicat. Ils s'en revinrent à pied, faute de voiture. À la nouvelle d'un changement de ministère, Paris avait changé. Tout le monde était en joie. Des promeneurs circulaient et des lampions à chaque étage faisaient une clarté comme en plein jour. Les soldats regagnaient lentement leurs casernes, harassés, l'air triste. On les saluait en criant « Vive la ligne !» Ils continuaient sans répondre. Dans la garde nationale, au contraire, les officiers, rouges d'enthousiasme, brandissaient leurs sabres en vociférant « Vive la réforme !» et ce mot-là, chaque fois, faisait rire les deux amants. Frédéric blaguait, était très gai. Par la rue Dufaux, ils atteignirent les boulevards. Des lanternes vénitiennes, suspendues aux maisons, formaient des guirlandes de feu. Un fourmillement confus s'agitait en dessous. Au milieu de cette ombre, par endroits, brillaient des blancheurs de baïonnettes. Un grand brouhaha s'élevait. La foule était trop compacte, le retour direct impossible. Et ils entraient dans la rue Caumartin, quand tout à coup éclata derrière eux un bruit, pareil au craquement d'une immense pièce de soie que l'on déchire. C'était la fusillade du boulevard des Capucines. « Ah, on casse quelques bourgeois !» dit Frédéric tranquillement. Car il y a des situations où l'homme le moins cruel est si détaché des autres qu'il verrait périr le genre humain sans un battement de cœur. La maréchale, cramponnée à son bras, claquait des dents. Elle se déclara incapable de faire 20 pas de plus. Alors, par un raffinement de haine, pour mieux outrager en son âme Madame Arnoux, il l'emmena jusqu'à l'hôtel de la rue Tronchet, dans le logement préparé pour l'autre. Les fleurs n'étaient pas flétries, la guipure s'étalait sur le lit, il tira de l'armoire les petites pantoufles. Rosanette trouva ses prévenances fort délicates. Vers 1 heure, elle fut réveillée par des roulements lointains, et elle le vit qui sanglotait, la tête enfoncée dans l'oreiller. « Qu'as-tu donc, cher amour ?»« C'est excès de bonheur, » dit Frédéric. « Il y avait trop longtemps que je te désirais.